Le guide dans l'année liturgique. Le guide dans l'année liturgique, Dom Pius Parche. Mercredi de la semaine sainte, station à Sainte-Marie-Majeure. Judas le misérable. L'Église nous fait lire aujourd'hui, comme déjà au temps du pape Saint Léon Ier, la Passion selon saint Luc. Les antiennes au lever et au coucher du soleil nous parlent de saint Pierre. L'Église rappelle en ce jour, comme d'ailleurs chaque mercredi, la trahison de Judas. Le matin, nous chantons « Simon, tu dors, ne peux-tu pas veiller une heure avec moi ?» À l'aude, ces paroles conviennent bien en cette heure matinale. Le soir, nous chantons « La servante dit à Pierre, assurément tu es l'un d'entre eux, car ton langage même te fait reconnaître. » La messe. L'église de station est aujourd'hui à Sainte-Marie-Majeure, une des plus grandes églises de Rome. Cette circonstance et le fait que la messe a trois leçons nous prouvent que c'est une messe très ancienne. L'église de station a-t-elle exercé une influence sur le choix des leçons? Saint Luc, l'évangéliste de la Passion d'aujourd'hui, aurait été un peintre qui fit le portrait de la Mère de Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'aucun évangéliste ne nous a laissé une aussi belle image de la Sainte Vierge. Rappelons-nous l'histoire de l'enfance du Seigneur, de même le prophète de la naissance virginale du Christ, Isaïe, prend deux fois la parole. Nous avons donc un triptyque, au milieu la Mère de Dieu et de chaque côté Isaïe et Saint Luc. Ce triptyque résume la messe. Cette fois encore, la messe commence solennellement. Le royaume de Dieu dans ses trois états est en adoration devant le Seigneur obéissant jusqu'à la mort de la croix. Devant lui se prosternent l'Église triomphante, l'Église militante et l'Église souffrante. Mais l'Église le voit déjà dans sa gloire à la droite de son Père. Aujourd'hui encore, un chant directeur se fait entendre à travers toute la messe. On retrouve dans quatre chants le psaume 101. C'est un nouveau signe de l'antiquité de cette messe. Nous connaissons déjà ce psaume qui est un des psaumes de pénitence. Récitons-le en entier. Dans notre messe, le psaume est mis dans la bouche du Christ auquel s'unit la communauté. Remarquons, dans l'introïte, le contraste entre l'antienne et le psaume. Dans l'antienne, nous voyons le Seigneur dans la gloire du Père. Le psaume nous montre le Christ obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le Christ humilié. À la communion, nous établissons une relation entre le psaume et le breuvage eucharistique. Je mêle les larmes à mon breuvage parce que vous m'avez soulevé et jeté au loin. Les deux leçons nous donnent les plus belles prophéties d'Isaïe sur la Passion. La première nous parle du divin vendangeur. Quel est celui-là qui vient d'Édom, de Bosra, en habit écarlate? Il est magnifique dans son vêtement, brillant de force. C'est moi, le Messie, qui promet la justice qui ne punit que pour sauver. Mais pourquoi ton vêtement est-il rouge? Et pourquoi tes habits sont-ils comme les vêtements de ceux qui pressent la vendange dans le pressoir? Au pressoir, j'ai foulé seul, et parmi les peuples, personne n'a été avec moi. J'ai pressé les peuples dans ma colère, et je les ai piétinés dans ma fureur. Mais leur sang a jailli sur mes habits, et j'ai souillé tout mon vêtement. Le Christ, dans sa Passion, a pressé pour nous le vin eucharistique. La seconde leçon est particulièrement saisissante. Elle nous décrit l'homme des douleurs, que Dieu a chargé de tous nos péchés. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur et familier de la souffrance. Son visage était comme voilé et méprisé, aussi nous ne l'avons pas considéré. Il a véritablement porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Nous le regardions comme un lépreux, comme un homme frappé par Dieu et humilié. Mais lui a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été broyé à cause de nos péchés. Le châtiment qui donne la paix a été sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons guéri. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Le Seigneur a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Il a été sacrifié parce qu'il l'a voulu. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis, il sera mené à la tuerie, et comme un agneau devant celui qui le tond, il restera silencieux, il n'ouvrira pas la bouche. La passion est extraite de l'évangile de l'amour miséricordieux. Nous y rencontrons des scènes particulièrement touchantes, par exemple la promesse du Christ au bon larron. À la post-communion, nous entendons pour la première fois la vénérable raison qui nous accompagnera pendant tout le Saint Triduum. Jetez un regard, nous vous en supplions, Seigneur, sur votre famille pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des pécheurs et à souffrir le tourment de la croix. L'office des heures est tout rempli lui aussi des plaintes du Christ. Remarquons que les psaumes du mercredi, surtout aux petites heures, sont très tristes. Ils s'adaptent parfaitement aux sentiments du jour. Par exemple, le psaume 54 à tierce est une plainte du Christ sur la trahison de Judas. Si c'était un ennemi qui m'eût outragé, je l'aurais supporté facilement. Si c'était un adversaire qui se fût élevé contre moi, je me serais caché devant lui. Mais toi, un autre moi-même, mon ami, mon confident, toi qui t'asseyais à ma table et mangeais de doux aliments, nous allions d'un commun accord à la maison. Dans les leçons, le prophète Jérémie prend de nouveau la parole. Tous ceux qui vous abandonnent périssent, ceux qui se séparent de vous seront écrits sur le sable, car ils ont abandonné la source d'eau vive, le Seigneur. Guérissez-moi, Seigneur, et je serai guéri, car vous êtes ma louange. Que mes persécuteurs soient confondus et que je ne le sois pas moi-même, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Amenez sur eux le jour du malheur et abattez-les d'un double châtiment. Prêtez-moi l'oreille, Seigneur, et entendez la voix de mes adversaires. Rend-on le mal pour le bien, puisqu'il creuse une fosse pour mon âme. Souvenez-vous que je me suis tenu devant vous pour vous parler en leur faveur et pour détourner d'eux votre colère. L'Église aime placer ses paroles dans la bouche du Seigneur. Les réponses sont aussi des plaintes du Christ souffrant. Les hommes trompeurs m'ont environné et ils me flagellent sans motif. Mais vous, Seigneur, vous êtes mon avocat, protégez-moi. Grande est ma détresse et il n'y a personne pour me consoler. Le Saint Triduum. On appelle volontiers les trois derniers jours de la semaine sainte le Saint Triduum, Triduum Sacrum. On peut examiner ces jours d'un triple point de vue. Ils sont tout d'abord le point final et suprême du temps de préparation à la fête de Pâques. L'Église, comme on l'a déjà remarqué, s'entend merveilleusement aux préparations graduelles. Depuis la Septuagésime, nous avons suivi un perpétuel crescendo. L'avant-carême constituait la première étape, puis est venu le temps du carême, dans lequel nous avons pu observer une progression ininterrompue, puis ce fut le temps de la Passion, nous avons gravi un degré de plus avec le dimanche des rameaux et l'entrée dans la semaine sainte. Maintenant nous entrons dans le Saint des Saints, le Saint Triduum. Cependant ces trois jours appartiennent déjà à la fête de Pâques. La mort et la résurrection du Christ sont inséparables, ce sont les mystères de Pâques. C'est pourquoi nous passons sans transition brusque de la semaine sainte à la semaine de Pâques. La solennité du samedi saint est déjà une solennité de résurrection et de baptême. On peut enfin envisager ces trois jours comme formant une unité. Ils forment vraiment un triduum, une trilogie, le drame en trois actes de l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est ce que nous avons déjà montré pour les matines. On peut en dire autant des autres offices. L'office des ténèbres se rattache davantage à la passion amère et aux plaintes du Christ mourant. Les autres offices ont d'ordinaire un contenu différent et témoignent d'un autre état d'âme. Ils célèbrent surtout la passion bienheureuse et ont pour objet l'aspect bienfaisant et victorieux de l'acte rédempteur du Christ. Les matines, d'ailleurs, sont d'une époque relativement récente, 8e-9e siècle, tandis que les autres offices remontent à la plus haute antiquité. Le contenu principal de la trilogie des matines est l'agonie, la mort sur la croix, le repos au tombeau. Le contenu des autres offices, par contre, est l'Eucharistie, le triomphe de la croix, le baptême et la résurrection. La piété subjective et méditative, ainsi que la piété objective et réceptive, trouvent donc toutes deux leur aliment. La passion amère et la gloire de la croix se présentent alternativement à notre âme. Faisons encore ici une remarque au sujet de la célébration du Saint Triduum. Au Moyen-Âge, ces trois jours étaient des jours chômés. On s'abstenait de toute œuvre servile et le peuple pouvait vaquer tranquillement à la célébration de ces saints jours. Tout le monde devrait comprendre que la célébration de ces jours, les plus riches de l'année en souvenirs sacrés, demande une préparation convenable et le repos corporel et spirituel. Malheureusement, les nécessités économiques empêchent un grand nombre de fidèles de prendre part à ces solennités. Que les amis de la liturgie s'efforcent cependant de se rendre libres pendant ces trois jours. Ceux qui peuvent aller dans une abbaye participeront aux cérémonies. Que les maîtresses de maison aient achevé leur travail de nettoyage dès le mercredi. C'est précisément dans les familles qu'on doit se disposer à célébrer comme il faut le Saint Triduum. Que les pasteurs en fixent les cérémonies à une heure qui permettra à ceux qui ont une profession d'y assister. Il est si triste de voir ces cérémonies célébrées dans des églises vides ou bien devant des vieillards et des enfants. Sur ce point aussi, nous avons besoin d'un sérieux renouveau.